Bonjour, c'est le retour du collectif Poil à gratter. Donc on est toujours sur le plateau de Mille Vaches, après avoir rencontré la scierie autogérée d'Ambiance Bois, Laurence et Marc du réseau Repas, après avoir rencontré Constance de la ressourcerie Court Circuit. Cette émission sera consacrée à une petite scop qui est située aussi à fond la montagne, donc sur le plateau de Mille Vaches, et qui s'appelle La Navette. Donc La Navette qui est une scop autogérée à but non lucratif au service de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de la configuration de l'entretien, donc on a commencé l'entretien avec Eliane dans la pièce dans laquelle travaillent les collaborateurs de la navette. Donc une pièce où il y avait une table centrale où on était installés et il y avait les collaborateurs qui étaient autour de la table, donc ils travaillaient chacun à leur poste, qui écoutaient d'une oreille attentive ce qui se disait et qui de temps en temps apportaient des précisions, des nuances, des remarques à ce qu'on disait. Et donc c'était finalement un entretien assez collectif. Donc on va consacrer une première émission à la navette, à son fonctionnement, à ses problématiques, notamment la question de l'autogestion, de la collégialité au sein des associations, qui va durer environ 40 minutes. Et donc l'émission prochaine, qui sera dans une semaine ou dans 2 semaines, on va revenir un petit peu en profondeur sur la question de l'économie sociale et solidaire, où Eliane et Alain vont nous éclairer sur la façon de s'investir dans ce champ. Avec une petite surprise peut-être, car le collectif de l'ombre Poil à gratter a envie de se frotter à l'émission et au direct du studio de La Vertitude des choses à Radio Campus. Et donc voilà, si on en a le courage, c'est pas gagné encore, si on a le courage, peut-être que on va sortir de notre cave humide et souterraine pour revenir au-devant de vous, clôturer cette série d'émissions sur le plateau de Mille Vaches. Et rencontrer le... Et rencontrer les auditeurs.
En fait, on voulait un petit peu savoir ce que c'était que la navette. Si vous pouviez nous expliquer un peu quelle est l'histoire de la navette.
Comment l'histoire est... de la navette. La navette, c'est une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. On tient au mot ouvrier. On n'est pas coopératif et participatif, n'est-ce pas? Et c'est une SCOP de rédacteurs. On écrit essentiellement en direction du monde associatif, de l'ESS, pour une revue nationale, entre autres, Association Mode d'Emploi.
Alors, pour répéter ce que c'est que l'ESS ?
Pardon, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc c'est tout ce qui est SCOP. On le prend dans sa définition la plus stricte, SCOP, fondation, mutuelle, association, coopérative. Quoi. Après, aujourd'hui, il y a une définition beaucoup plus large, mais bon, nous, on part là-dessus parce que, enfin, tout ce qui est... sociale et solidaire, en fait. Donc on s'adresse essentiellement quand même, le gros de notre public, c'est les associations. On est pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on donne des méthodes, des moyens de faire des choses, d'être dans les clous au niveau juridique, de pas trop déborder de ci, de là, parce que bon, des fois, il y a les gens montent des associations comme ça, très naïvement, avec plein de bonne foi, et font un peu n'importe quoi, ils se retrouvent devant des soucis avec l'URSSAF, avec le fisc, enfin... Donc on leur donne des petits conseils comme ça, très pratico-pratiques. Sinon, on alimente des sites, des pages associatives de sites pour la Maïf, pour la Caisse d'épargne, pour d'autres grands acteurs comme ça, toujours dans l'ESS, parce que c'est des mutuelles, tout ça, quand même. Mm-hmm. Et sinon, on édite donc la collection de guides pratiques, toujours avec Association Mode d'Emploi, avec des thèmes précis, la comptabilité, la gestion, écrire ses statuts, être président, enfin des... Voilà, pour toujours dans le même but. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On travaille aussi avec Interdépendance, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mensuel qui est sur l'ESS aussi. On alimente aussi des petites revues de cabinets d'experts comptables qui travaillent beaucoup avec les associations. Et puis bon, bah, pour des commandes d'écriture qui sont dans notre domaine d'activité, quoi. Là, on a travaillé pour le PNR, on a fait un guide de l'ESS sur le territoire du PNR, donc on a recensé toutes les structures. associatives, SCOP, etc., qui existent. Pardon, c'est affreux ce qu'on peut parler par sigle. Parc naturel régional du Mulvache. Il y en a un là-bas, ouais. Ouais, voilà. Donc là, c'est celui de Mulvache et qu'ont un appel à projet orienté ESS. Donc ils nous ont demandé d'écrire un guide où on recense en fait toutes les structures ESS du territoire qui travaillent avec une activité économique et des salariés de préférence pour montrer un peu aux élus, aux collectivités locales et au public, voilà, qu'est-ce que ça peut amener une association qui se monte dans un village ou voilà, genre ambiance bois fou, qui au début pouvait passer pour loufoque et qui a 25 ans d'existence, et etc.
Et vous en avez recensé beaucoup ?
Il y en a pas mal. Combien on en a recensé ? Je ne sais plus.
Mais ce n'est pas seulement un recensement, c'est aussi...
Non, c'est aussi... Il y a une fiche. Donc, on en a, sur tout ce qu'on a recensé, on en a fait ressortir 15 qui étaient particulièrement exemplaires, on va dire, ou emblématiques, parce qu'elles étaient là depuis longtemps ou qu'elles avaient une action vraiment importante. Et on a fait donc une fiche pour chacune en expliquant la genèse du projet, le pourquoi, le comment... Et la petite fiche technique avec le budget, le nombre de salariés, qui les a aidés au départ, qui les a soutenus.
D'accord.
Voilà. Et donc il y a une quinzaine, ouais. Dont nous d'ailleurs. On s'est auto-interviewés. Une quinzaine de fiches comme ça.
Donc voilà. Association et entreprise.
Oui. Activité économique, voilà, ouais. D'accord. Donc que ce soit associatif, coopératif, peu importe. C'était du moment que c'était un de ces statuts-là, quoi. C'est essentiellement d'ailleurs pour beaucoup des associations.
Et vous avez monté du coup cette navette qui recense, qui rédige, etc. parce qu'il y avait un besoin à votre sens.
Alors,
à un moment donné.
La navette, peut-être qu'Adam, tu pourrais intervenir là-dessus parce que la navette n'est pas née ici. La navette est le résultat d'une SCOP qui existait déjà depuis la péniche.
Avant la navette, ça avait 10 ans.
Voilà. D'accord. Avant la navette à Paris, ouais. Qui avait le même métier. Hein. Plus large peut-être, et qui s'est éclaté en 3 structures, pour diverses raisons, hein. Mais ça marchait de la même façon. Hein. Et donc il y a eu la péniche qui est à Grenoble, si je ne dis pas de bêtises, la navette qui a émigré à Faux, et la pirogue qui est restée à Paris. Voilà, ça y est, je commence à avoir le truc. Et donc la navette s'est installée en 2007. Pendant un an, elle a eu un statut associatif parce que du coup, ils se sont partagés le portefeuille client.
Ouais.
Donc, il y a 3 personnes de la péniche qui sont venues à Faux, qui pour continuer à travailler sont montées en association et se sont, au bout d'un an, transformées en SCOP. Parce que le montage d'une SCOP, c'est quelque chose d'assez long, ça ne se fait pas comme ça. Donc, pour continuer à travailler, ils ont fait ça. Et étant donné que l'association peut se transformer en SCOP, un des rares statuts commerciaux avec la SIC, les 2 seuls d'ailleurs. Qui permet une continuité des contrats de travail, du patrimoine, du capital, etc. Donc, voilà. Donc la SCOP existe depuis, officiellement la SCOP en tant que SCOP, depuis janvier 2009. Voilà. Et donc ils sont arrivés à 3 et petit à petit ils ont embauché les gens du coin, donc Nicolas, Michel, moi, il y en a eu un autre, enfin voilà. Aujourd'hui on est officiellement 1, 2, 3,
7,
merci.
À temps complet ?
Non, on est tous à temps partiel par choix.
Ouais.
Parce que d'une part, on a des choses à faire par ailleurs. On n'a pas envie de faire que travailler. Que c'est intéressant aussi de partager le travail et qu'on arrive à suffisamment bien se payer pour se permettre des temps partiels en vivant confortablement.
D'accord. Vous avez un salaire égal ?
Oui, on a un salaire horaire égal. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même temps de travail, mais on a tous le même taux horaire. Ça, c'est une volonté ferme et... très marqué, à tel point que, je sais pas s'il faut que je le dise au micro, qu'on n'est pas dans les clous, c'est-à-dire qu'on n'applique pas l'ancienneté.
D'accord.
Alors que selon la convention collective, on devrait appliquer l'ancienneté. Prime d'ancienneté plus augmentation de travail, mais nous, on ne le fait pas. Donc là, on n'est pas dans les clous, mais à la limite, c'est un choix qu'on revendique. Et voilà quoi. Donc on fait à peu près tous le même travail, à peu près... Hein. Le principe de base, c'est qu'on se partage tout le travail. Sauf qu'on ne va pas obliger des gens à faire des choses qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas faire. Il y a des affinités, il y a des compétences, il y a des machins. Donc le travail se répartit. Mais à la base, quand même, on est tous rédacteurs, sauf Olivier qui n'aime pas du tout écrire. Donc il lui s'occupe plutôt de la partie administrative et compta. Et sinon, tous les autres, bon, on essaie de se partager au maximum les tâches.
Alors, par exemple, concrètement, sur les tâches
pour... Concrètement, on a des réunions de travail régulières. Enfin, on essaye. Ouais. Tous les 15 jours, on va dire, allez, pour être gentil. On balaye toutes les tâches à faire. Et par exemple, on dit, bon, le prochain association mode d'emploi, il y a tel et tel et tel article à écrire. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Alors, des fois, il y a un gros silence. Puis, bah, quelqu'un qui dégoûte, bon, je vais le faire. Sinon, bon, voilà, on se répartit les tâches comme ça. Ou un peu au feeling, mais il y a des choses, on est bien obligé de les faire. Donc, on se pousse, on se force un peu, quoi. Concrètement, voilà, c'est ça.
Et la vente, en fait, ça se passe comment?
Là?
La vente,
bah, la navette enfin, est arrivée ici avec des clients, des clients importants, des gros clients, qui font un fonds de roulement voilà, suffisant. Et c'est vrai que le fait de déménager de Paris à la banlieue, au niveau de la prospection, ça pose un souci, parce que quand tu es à Paris, bah, tu vas dans les petits déjeuners, tu vas dans les colocs en rigolant, quoi. Tu prends le métro, tu vas, ça t'ennuie pas de passer 3 heures. Sauf que le fait d'être à Faux, aller passer 3 heures dans un colloque à Paris juste pour se montrer, parce que c'est quand même de la représentation, ça demande eh ben, des frais de... Ça demande une journée de travail entière, quoi, au minimum, quoi. On essaie de développer le marché national, parce que c'est important, parce que c'est là où ça rapporte. Hein, soyons clairs, on est une entreprise, hein, on ne l'oublie pas. Et on essaie aussi de développer un marché local, mais le Limousin étant ce qu'il est, effectivement, c'est beaucoup moins rentable. Donc on fait parce qu'il faut faire, et puis parce que c'est notre rôle aussi, et parce qu'on ne veut pas être à côté de la plaque. Mais voilà, donc on essaie de compenser le marché local avec le marché national. Enfin, on jongle un peu. Après, on se dit, on a des marges, parce qu'on est en scope, parce qu'on est tous associés. Il n'y a pas de salariés non associés à la navette, d'accord? Ce qui fait qu'on dit, les marges de manœuvre, c'est notre temps de travail, c'est notre salaire. On essaie de... Pour l'instant, on n'a pas eu à toucher à ça. Mais on se dit qu'en cas de vraiment difficulté, en espérant qu'elle ne soit que passagère, on pourra toujours tirer là-dessus. Enfin, voilà. Comme on est une structure souple, on peut s'adapter un peu au marché. Mais ça n'empêche que, oui, effectivement, il y a un gros travail de prospection, de recherche de clientèle, de nouveaux clients, de nouveaux marchés, de développement des marchés qu'on a déjà. Et c'est vrai que la conjoncture, elle ne s'y prête pas des masses. Parce qu'en plus, sur Internet, on a une concurrence de plus en plus sérieuse par rapport aux sites gratuits. Il y a plein de gens qui mettent des informations très pertinentes et très bien construites à disposition gratuitement, ce qui fait que nous, si on les vend à côté, on a l'air d'être un peu des, des requins. Quoi, tout ça, c'est un peu difficile. Donc on cherche aussi à développer d'autres activités, parce qu'on ne fait pas que de l'écriture, on fait de l'accompagnement, on peut faire de la formation.
Et conseil-expertise.
Oui, voilà, on va dire ça, genre consultant, on n'aime pas trop les termes, mais bon, faut bien qu'on se reconnaisse pour ce qu'on fait.
Mais ça va être de la formation sur quoi exactement?
La formation, ça va être surtout sur la vie associative, c'est-à-dire, comme il y a pas mal de services de vie associative qui se développent dans les mairies, dans les municipalités, et qu'aujourd'hui, les associations sont de plus en plus appelées à se professionnaliser. Elles sont de plus en plus contraintes par des textes juridiques, des contraintes de gouvernance, machin. Ce qui fait que nous, on peut leur apporter un peu des billes, on va dire, pour essayer d'être dans les clous. Je parle des associations qui développent une activité économique, pas la petite association du randonnée du coin qui a besoin de rien ni de personne. Et donc, des formations. La dernière qu'on a faite, c'était l'Union nationale des maisons des étudiants. C'est des foyers d'étudiants. Et ils proposent des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui trouvaient un foyer, un logement. Et ils proposent à des étudiants de faire de l'accueil ou des permanences en échange d'une baisse de loyer. Or ça, légalement, c'est du travail dissimulé.
Voilà.
Ils peuvent très bien, voilà. Donc on a fait une formation avec une avocate, ils nous ont demandé pour essayer de qu'ils sachent au moins ce qu'ils font, quoi. Parce qu'ils n'ont pas non plus trop le choix, mais qu'ils sachent bien qu'ils sont limite, et qu'ils prennent le maximum de précautions. Donc on leur a donné les moyens d'essayer de passer ça d'une autre façon. D'être prudent, quoi. Parce que de bonne foi, on se lance dans ces choses-là et on se retrouve devant l'URSSAF qui va te réclamer des charges sociales sur 5 ans.
Tout ce volet juridique, ça demande des compétences quand même assez... qui sont très pointues pour le coup. Vous venez des études de droit, des choses comme ça ou...
Pas vraiment. En fait, les cursus universitaires des uns et des autres, ça va de la sociologie, je crois, l'histoire. C'est beaucoup une histoire d'expérience.
Dans l'initiatif ou
l'économie. Oui, voilà. C'est beaucoup une histoire d'expérience et c'est une histoire de veille juridique aussi. On est constamment sur Internet, on est abonné à des... Voilà, les Gifrance, on connaît bien. On est abonné à des lettres d'information, à des alertes qui nous préviennent quand il y a des modifications, des décrets, des circulaires, des choses comme ça. Et puis en cas de doute, on fait effectivement appel à nos partenaires avocats ou comptables. On leur dit, nous on ne sait pas trop, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, ils nous renvoient un avis, quoi. On n'est pas tout seul non plus, quoi. On s'appuie quand même sur des... moi personnellement, c'est l'expérience du monde associatif que j'amène ici. Parce que j'ai pas de diplôme particulier, mais ça fait 25 ans que je traîne les assos, que j'en monte, que j'en... Je commence un peu à connaître le sujet, quoi.
D'accord. Et des assos dans le coin, t'es du coin, toi, par exemple?
Non, je suis pas du coin. Moi, j'ai vécu longtemps à Paris, j'ai vécu longtemps en Sarthe. Et après, je suis arrivée ici en 2007. Et c'est vrai que, j'ai pas mal traîné dans ce milieu-là. Je connaissais beaucoup moins l'ESS, le SCOP, tout ça. Mais par contre, les associations, ouais, j'étais bien dedans, quoi. Donc, je sais les petites et moyennes associations, surtout. Parce que je sais bien quel est l'esprit... Quand on monte une association, quand on la fait fonctionner, comment on ne tient pas compte de la loi, du machin, du truc, on y arrive quand même très bien et qu'on n'a pas d'ennui, ça tombe bien parce que tout se passe bien. Mais comment des fois on arrive à trébucher et à se retrouver devant des soucis, à se dire merde, comment on va faire, les assurances, les trucs, tu vois bien comment ça vit tout ça. Donc tu sais quoi leur dire, quoi leur apporter. On leur met souvent, les pauvres, on leur met les lois, je me souviens du NME, là, ils étaient atterrés, on leur a dit, ouais, ça, c'est ta, 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 ils se disent, mais on peut plus rien faire, quoi. Donc, Après, tu ramènes, tu dis, bon, vous affolez pas non plus. En faisant comme ci, en faisant comme ça, en prenant tel billet, ça adoucit la chose. Voilà, vous pouvez toujours discuter. À la limite, prenez les devants. Allez voir l'URSSAF, dites-leur, voilà, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, comment vous le voyez. C'est un risque, parce que si on tombe sur quelqu'un de très procédurier, ça va être non. Mais si on tombe sur quelqu'un d'un peu intelligent, et il y en a plein, à l'URSSAF comme aux impôts, non mais c'est vrai, hein. Et puis ils connaissent le truc, ils apprécient qu'on vienne les voir. Et puis du coup, ils connaissent et ils reconnaissent la situation aussi, la situation de bonne foi. La bonne foi est vachement importante dans toutes ces situations-là. Et donc, ils arrivent à dire, bon, c'est l'UNME, on ne va pas leur chercher d'ennui, on va laisser passer le truc. Plutôt que d'être découvert par quelqu'un qui veut faire du zèle et qui va cartonner. Quoi. Mais bon, c'est une part de risque quand même. Quoi. Voilà. C'est pour ça que l'échange entre associations est très important, parce que quelqu'un qui a déjà eu affaire au service des impôts du coin va pouvoir dire « Oh là là, attention, celui-là, faut même pas y aller, au moins il connaît, mieux ça vaut », alors qu'un autre, on va te dire « Non, au contraire, tu peux discuter, il faut y aller ». Et ça, c'est très très important. Quoi. C'est pour ça de travailler en réseau, quoi, toujours.
Thank you.
Et une question qui me taraude un peu, moi, par rapport au fonctionnement associatif.
Ouais.
Sur les statuts, enfin moi je me souviens, sur Besançon, on avait monté une asso qui avait des statuts collégiaux.
Ouais.
Et est-ce que vous, alors justement dans le fonctionnement et un petit peu l'esprit de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous communiquez un peu là-dessus? Est-ce que vous poussez un petit peu à ce genre de fonctionnement? Ou est-ce que c'est un truc qui reste marginal et...
On a tendance à promotionner quand même. Enfin, pas promotionner vraiment, pas dire ouais, c'est vachement bien, parce que c'est pas si évident que ça, le fonctionnement vraiment collégial. C'est quelque chose d'assez pas évident à gérer. Il faut vraiment en avoir envie et il faut bien l'organiser quand même. Ceci dit, on dit très régulièrement aux gens qu'ils ne sont absolument pas tenus d'avoir un bureau avec la structure président, trésorier, secrétaire, que même s'ils ont un président, il n'a que les pouvoirs qu'on lui donne, que c'est pas parce qu'il porte un titre qu'il a plus de pouvoir que les autres. On communique pas mal là-dessus. Et ça reste marginal, mais il y en a quand même de plus en plus qui sont tentés par un fonctionnement différent, non hiérarchisé en tout cas. Mmh. Pas obligatoirement totalement collégial, mais avec un bureau sans président. Souvent, c'est le premier pas. On élimine le président parce que c'est le titre qui fait qu'on imagine que c'est le chef et qu'il a deux voix. J'ai vu des assos avec la voix prépondérante du président. C'était typique, même dans les statuts types qu'on te proposait. C'était le président à voix prépondérante en cas de désaccord, alors qu'il n'y a aucune raison, en fait. Et de plus en plus, ça a tendance à s'atténuer, à tel point qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur proposait statut type dans lequel il y a le président, le machin, mais avec une petite note de bas de page qui dit « Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, vous pouvez très bien fonctionner en collégial. » Donc c'est de plus en plus. Parce qu'il y a un moment donné où les préfectures elles-mêmes refusaient. Ils disaient « Non, vous n'avez pas le droit. » Alors ça, c'était une bataille. Voilà. Par contre, ce qu'ils demandent, il n'y a aucun texte qui appuie cette demande-là, mais elle est relativement légitime, c'est un représentant légal. C'est-à-dire une personne qui va être désignée pour représenter l'association auprès de la préfecture, mais c'est juste une délégation, quoi. C'est vraiment un rôle représentatif. Il n'y a pas un rôle à l'intérieur de l'asso plus prépondérant qu'autre chose, quoi. Après, ça ne l'engage pas plus qu'autre chose. S'il y a, par exemple, un souci que l'asso va au tribunal, c'est le conseil d'administration qui va dire un tel va nous représenter. Et ce n'est pas obligatoirement celui, et personne ne dira rien, quoi.
Mais dans tous les cas, moi, ce qui me semble intéressant, justement, dans ce fonctionnement-là, donc... Mis à part le fait que voilà, c'est, il n'y a personne vraiment qui chapeaute et qui est responsable de la bonne marche ou la mauvaise marche de l'association, c'est que du coup, au niveau de la prise de risque, si jamais il y a un problème, eh ben, ce n'est pas une personne qui est tenant des problèmes qui peuvent survenir au niveau de l'association, mais c'est un collectif de personnes qui sont tous responsables du fonctionnement.
C'est ce qu'on appelle le solidaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont solidairement responsables. Après, il peut y avoir des délégations, on peut dire bon, ben, un tel va s'occuper, par exemple, d'organiser un festival. C'est un tel qui va coordonner le festival, pour ne pas dire chapeauter, quoi. En général, les fonctionnements collégiaux fonctionnent beaucoup par commission. Il y a des sous-groupes qui se mobilisent sur un thème. Communication, gestion financière, recherche de financement, relations partenaires. Tu vois, ils se répartissent les tâches comme ça par des sous-groupes de 3-4 personnes. Et c'est intéressant parce que dans ces sous-groupes, tu peux tirer des bénévoles de base et les amener aussi à la gestion, quoi. Parce que la difficulté des associations, souvent, c'est d'amener les gens à s'intéresser au fonctionnement, pas juste à l'événement, pas juste à l'activité. Donc c'est vrai que le fonctionnement collégial, il a ça de bien, c'est que ça personnalise pas le fonctionnement, justement. C'est pas « oh bah ça c'est le président, oh bah ça c'est le trésorier, oh bah ça c'est le secrétaire, je m'en fous, quoi ». C'est que du coup ce flou permet de répartir les tâches sur des... Et les commissions peuvent amener sur un truc, par exemple organiser un festival, ça peut être intéressant. Donc tu peux dire aux bénévoles bah, « tiens, ça vous intéresse de venir ?» Et tu peux les amener comme ça petit à petit à prendre un peu, à voir ce que c'est qu'un budget, voir que c'est pas si mortel que ça, de remplir un dossier de sub, d'aller chercher des groupes, ou de trouver une scène, ou de trouver des éclairages, etc. Quoi. Moi, je trouve que le fonctionnement collégial, il a ça au moins d'intéressant, c'est qu'il n'est pas fermé sur un groupe restreint qui se paye tout et qui convoque les gens pour leur dire bah, « Tiens, là, il faut porter la scène. » Là, il faut tenir la buvette. Là, il faut porter les cajots. Voilà. Du coup, les bénévoles ne sont plus des pions. Ils deviennent acteurs.
Et finalement, on retrouve dans les associations les mêmes travers et les mêmes solutions. C'est des fois, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les entreprises avec une hiérarchie, des fois un peu autoritaire, avec toi tu fais ça, tu fais pas autre chose.
Oui, oui, d'autant que les statuts types qui ont été conçus pour les associations sont souvent calqués. Et donc le fonctionnement sur des statuts d'entreprise, quoi. C'était un peu une adaptation, on va dire. Donc d'où cette structure président, machin, un truc qui s'est imposé à l'usage, mais qui n'a pas de valeur juridique, quoi. C'est un fonctionnement comme un autre, quoi. Et ça, c'est un travail de faire entrer ça dans la tête des gens. Parce que, bon, il y a non seulement le fait qu'on pense que c'est obligatoire, mais aussi le fait de dire que ça ne peut pas fonctionner sans hiérarchie. Et ça, c'est...
C'est très 5ème République, quoi. Il faut un chef.
Ça, c'est ancré, quoi. Ouais. C'est parce que même l'autogestion, c'est très peu pratiqué. Hein. C'est pas... autant dans les instances que dans les scopes, c'est pas la norme, pas du tout.
Passer d'une association justement à une SCOP pour être plus dans une forme d'autogestion ou
que non, c'était... non, parce que je pense, enfin là, c'est Alain, tu m'écoutes. Le statut associatif, c'était vraiment un statut intermédiaire. Ça n'est en aucun cas, quand la péniche s'est éclatée et que la navette est arrivée ici, en aucun cas, il n'avait l'intention de rester association. C'est vraiment un statut intermédiaire qui permettait d'avoir une activité économique sans interruption, parce qu'une association se monte en deux jours. Tu vois, tu fais des statuts, t'envoies la préfecture, basta, ça y est, t'es déclaré, quoi. Enfin, 5 jours, le temps qu'ils renvoient le récépissé. Donc, tu peux travailler, tu vois. Et bien entendu que le but, c'était de redevenir une SCOP. Mais le montage d'une SCOP, c'est pas si facile que ça. Donc, il faut se donner le temps. Oui, c'est quand même, il faut ramer un peu. Parce que c'est une entreprise, donc il faut bien étudier les statuts, faut bien, voilà. Donc, le temps de monter la SCOP, tout en travaillant, en maintenant l'activité, ça a pris 1 an, quoi, à peu près.
D'accord.
Tu vois, donc, mais en aucun cas l'association n'était censée rester association.
Ouais, le but de
l'association. Bon, enfin... Ouais, enfin, parce qu'il est plus habilité à en parler que moi, en l'occurrence.
Le principe, de toute façon, le fonctionnement associatif permet complètement d'avoir une activité économique. Donc on aurait très bien pu rester dans un fonctionnement associatif autogéré. De toute façon, de fond, un fonctionnement autogéré, on peut l'envisager sous n'importe quel statut juridique, associatif, SARL ou SCOP. Il se trouve qu'avec un statut SCOP, on est beaucoup mieux adapté à l'esprit éventuellement qu'on pourrait développer autogestion, mais à l'inverse, il y a beaucoup de SCOP qui fonctionnent avec une hiérarchie, une pyramide, des différences de salaire, un pouvoir aux salariés de la SCOP réduit au minimum et quasiment inexistant, sauf le droit de pouvoir assister aux âgés et tout. Donc, je veux dire, le statut juridique, c'est vraiment que la dernière pierre d'un édifice. Il y a une volonté politique qu'il faut avoir avant cela pour fonctionner sous telle ou telle forme d'organisation humaine au sein de l'entreprise. Et donc, nous, quand on est arrivé ici, On a commencé en fonctionnaire, en association, parce que c'était en effet le plus rapide à monter, mais on aurait très bien pu continuer à fonctionner sous forme associative.
C'est vrai.
On s'est transformé en SCOP aussi par rapport à une lisibilité vis-à-vis du milieu avec lequel on travaille, c'est-à-dire celui de l'économie sociale, qui a plus l'habitude de voir des SCOP avoir ce type d'activité. Et puis, on s'est aussi transformé en SCOP d'une manière un petit peu... provocatrice, on va dire, par rapport à l'Union régionale des SCOP, avec lesquelles ça se passait pas très bien. Parce que les unions régionales de SCOP, je ne parle pas pour toutes les unions, mais un certain nombre d'entre elles, et surtout aussi la CGSCOP, c'est-à-dire la Confédération Générale des SCOP, ne voit pas l'autogestion d'un très bon œil comme mode de gestion des SCOP, justement.
C'est quand même paradoxal pour les personnes qui chapeautent.
Sur les fondements historiques, oui, mais c'est une évolution qui s'est faite depuis un certain nombre d'années au sein du mouvement des SCOP, avec... dans un état d'esprit de se rapprocher du monde de l'entreprise et donc du coup de se retrouver à pouvoir parler à des entreprises selon leurs mêmes normes. Et dans les entreprises traditionnelles capitalistes, le terme d'autogestion n'apparaît vraiment pas, quoi. Alors, c'est vrai qu'ils en sont même venus à transformer complètement le sigle le Société Coopérative Ouvrière de production en société coopérative et participative, ce qui gomme beaucoup de choses, hein, ouais. Parce que ça ne correspondait plus, selon eux, à ce que la manière dont ça devait se passer au sein des SCOP. Ouais. Et donc eux-mêmes, un certain nombre d'entre eux, se défendent même que le mouvement soit un mouvement de qui fasse référence à l'autogestion, de quelque manière que ce soit. Donc c'est vrai que c'était aussi pour nous une manière de leur rentrer un peu dans le chou. Ça continue.
Oui, ça continue. Alors,
il y a un bon site sur lequel Christian travaille beaucoup, qu'on avait monté du temps de la Péniche, donc l'entreprise précédente, qui s'appelle autogestion.coop. Et sur ce site, il y a énormément d'informations, aussi bien sur les différents modes d'organisation sous forme coopérative que des liens vers d'autres sites et puis des analyses de bouquins qui parlent de ces sujets-là. D'accord. Donc c'est un site à fréquenter.
Autogestion.com.
Et alors, une petite question sur l'autogestion justement et la forme coopérative, parce que nous par exemple on est arrivé dans notre périple à rencontrer un libraire et il disait mes parents étaient dans une coopérative de pêche. Et ce que j'ai pu constater avec la coopérative, c'est qu'un vote égale une personne, donc des fois égale un con, entre guillemets, on va dire. Donc c'est comme ça qu'il l'a formulé. Et il disait, donc finalement, j'en suis amenée à comprendre qu'il fallait quand même une gérance, quelqu'un qui porte un peu le chemin ou le projet plus que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type de parole ?
Qu'il faut, j'ai pas compris. Ce qu'il entendait, c'est que le vote ne
vaut. Il faut pas donner le droit de vote aux cons.
Ah, d'accord.
Non, enfin, ouais, il disait que comme tout le monde pouvait voter, il y avait des fois.
Oui,
c'était pas évident.
Bah oui, mais il faut bien.
On est toujours le compte de quelqu'un.
Oui, on est toujours le compte de quelqu'un. Ouais. Et puis, les gens existent tels qu'ils sont, quoi. Si tu travailles en collectif et que t'acceptes pas l'opinion, même si elle te hérisse et t'horripile. Dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux pas travailler en collectif ni en autogestion. Il faut, voilà. Après, c'est vrai que c'est au niveau de l'intégration des personnes que les choses se... Enfin, je sais pas comment dire, mais si t'as vraiment une ligne politique que tu veux suivre absolument, tu choisis les gens avec qui tu travailles. D'accord ?
Ouais, ça.
À moins que tu décides de te mettre en danger, ce qui peut être aussi tout à fait intéressant.
Par exemple, dans la navette, on ne choisit pas. C'est-à-dire que, en fait, s'il y a des gens qui, sur le déclaratif, disent « Nous, on sait faire un certain nombre de choses et on a envie de travailler comme vous travaillez », en leur ayant expliqué comment on travaille, quand on a besoin de nouvelles personnes, on fait appel à eux. à elles. Mais on leur demande pas de vérifier, enfin on ne vérifie pas leur déclaratif. C'est-à-dire que c'est la responsabilité des gens de dire ben, moi j'ai dit que ça m'intéressait de travailler sous cette forme telle qu'elle a été décrite plus haut. Ben voilà, c'est tout. Puis voilà, je sais à peu près faire ça, puis le reste, ça s'apprend. Mais on ne va pas aller vérifier, puis je ne vois pas. Et je ne vois pas en quoi la gérance va gérer le problème.
Non, on va choisir qui. Quoi.
Oui, alors
c'est c'est vrai, et en plus, c'est d'autant plus dangereux que, du coup, si tu donnes du pouvoir à une personne par rapport aux autres, c'est elle qui va décider d'un tas de choses, et il n'y aura pas de contre-pouvoir. Alors qu'au moins dans un collectif. Les gens s'affrontent, les gens se confrontent, mais y a, du coup, ça crée des équilibres. Que quand tu as un pouvoir unique, tu n'as plus de ce genre d'équilibre. On le voit avec notre fonctionnement national. Hein, c'est moi-jeu, quoi. Un moi-jeu, il est dangereux, même s'il est plein de bonne volonté. Même s'il est très intelligent. Je veux dire, il peut très bien faire des choses à côté. Alors que, bon, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que on n'est pas toujours d'accord, mais au moins, on s'ajuste. On essaie de s'ajuster, quoi. Mais c'est du cas par cas, c'est du quotidien. Il n'y a pas de recette. Hein. Chaque fois que je dis ça, il n'y a pas de recette sur le collectif. C'est que il faut arriver à s'entendre. Alors après, le groupe est constitué de caractères qui s'équilibrent ou pas. c'est de la gestion humaine. Hein. Ouais. C'est de la dynamique de groupe, vraiment.
C'est pour ça que la péniche a explosé. C'est parce qu'il y avait aussi des différences de caractère qu'on n'arrivait plus à gérer à un moment donné. À ce moment-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les choses se fassent le plus proprement possible et dans l'esprit le plus autogestionnaire possible, y compris dans la rupture entre les différentes personnes, de manière à ce que chacun puisse en sortir. C'est jamais facile, hein, et puis on est tous très remués dans ce genre de situation, mais au moins... Aussi parce qu'on avait la chance d'avoir une entreprise en très bonne santé, on a pu le faire dans des conditions où chacun a pu se retrouver avec sa part de l'activité et continuer son activité là où il en a envie. Quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi... est-ce que c'est un échec? Est-ce que non, c'est aussi un déroulement. Quoi. Il y a des crises... On arrive à les résoudre des fois, et des fois, on n'arrive pas à les résoudre. Enfin, quand on n'arrive pas à les résoudre et qu'on doit se séparer, il faut le faire de manière la plus propre possible. Quoi. C'est ça, hein, de ce point de vue-là.
Oui, puis il faut accepter aussi de ne pas avoir raison. C'est-à-dire que ton point de vue, il est pas, c'est pas le bon. C'est pas le bon pour le groupe, hein, ça veut pas dire que c'est pas le bon. Et puis, il faut accepter de se dire, je vais faire trois pas en arrière parce que sinon on va sur un clash inutile et improductif. Voilà, c'est à chacun aussi. Autant le groupe s'ajuste, autant les personnes, enfin j'espère, s'ajustent au groupe en essayant de faire taire son ego, de faire taire ses émotions un peu, de les contenir un peu, de dire autant, mais il y a des fois où effectivement tu veux pas, donc tu veux pas, tu mets ton veto, on va dire. Et les autres l'acceptent, et toi, il faudra aussi que tu acceptes le jour où ça sera quelqu'un d'autre, un truc auquel tu tiens, qui va dire ah non, moi je refuse complètement ça, et il faudra aussi l'accepter, tu vois. C'est un peu une aventure, quoi. C'est un peu naviguer à vue, mais c'est ça aussi qui fait toute la richesse du truc. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant de travailler. Moi, ce qui me retient ici, c'est pas tant la nature du travail que la façon dont on travaille. Parce que la nature du travail, des fois, c'est un peu... j'en dis pas plus. Des fois, je m'ennuie, quoi. Mais j'ai dit au moins... La façon dont on travaille, voilà, c'est enrichissant, c'est évolutif, c'est jamais trop la même chose. Il faut qu'on fasse face à des... Tu peux avoir une surprise un matin, tu t'amènes toute bonne humeur, et puis, mince, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a une ambiance, il y a un truc, voilà. Et c'est ça qui est marrant, quoi. Si on était chacun dans notre bureau avec un chef qui nous dit « tu fais ci, tu fais ça », moi, je serais déjà partie, quoi. Très clairement. Ah bah oui, je serais pas restée.
Mais du coup, quand il y a des décisions à prendre, elles se font dans la discussion. C'est
oui,
ça
oui, oui.
Il n'y a pas de vote ou...
Non, on n'a jamais eu recours au vote encore.
Ça se fait dans la discussion, ouais. Et puis des fois, il y a des vétos, si je comprends bien.
Est-ce qu'on a eu déjà un veto?
Explicite, on n'a pas forcément des vétos explicites, mais il y a aussi une manière de voir que la décision ne se prend pas. qui est le fait de quelqu'un ou de quelques-uns qui peuvent bloquer par rapport à quelque chose, qui peuvent ressembler à une espèce de veto. C'est-à-dire que c'est pas mûr, mais ça va pas forcément être dire je m'oppose formellement à. C'est rare que ça, ça arrive.
Je ne viens pas. Ouais.
Enfin, c'est vrai que de toute façon, si la décision ne se prend pas, c'est aussi qu'il y a quand même des gens. Ouais. Mais oui, tout se prend par la discussion. Un vote n'aurait pas vraiment de sens.
Non. C'est vrai qu'on n'a jamais eu recours au vote.
Et parce que le vote, c'est une violence. C'est une violence à la minorité. Alors, après, un fonctionnement de groupe, il y a toujours une violence, il y a toujours des souffrances et tout ça. Comment on les gère? On les gère un peu comme on peut et on essaye de faire un peu attention à ça. C'est vrai. Mais explicitement, dans le vote, il y a quand même quelque chose qui relève de la domination, de la prise de pouvoir. Et c'est pas parce que les gens sont majoritaires qu'ils sont plus légitimes de ce point de vue-là. Donc, voilà, donc discussion et discutons tout le temps. Oui, voilà. Quitte à ne rien faire.
Quitte à ne rien faire, oui. Ouais.